Rano d'avoir été tous les deux les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossart, Théa de Turckheim, réalisation en direct Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Merci d'avoir écouté l'heure du crime. Et ne bougez pas.
RTL vous propose maintenant une rediffusion des grosses têtes présentées par Laurent Ruquier.
Bonne nuit et bonne écoute.
RTL, il est 3h. 24 heures d'info avec Aude Vernuccio.
L'adolescent de 14 ans, soupçonné d'avoir tué une surveillante à Nogent, en Haute-Marne, a été mis en examen pour meurtre aggravé. Le collégien a reconnu les faits. Il a été placé en détention provisoire. Le jeune suspect, en revanche, a été placé sous le statut de témoin assisté dans l'enquête sur les violences subies par des gendarmes. Les collèges et lycées de France ont observé une minute de silence pour rendre hommage à la victime. Mélanie, 31 ans, poignardée mortellement. Le dernier bilan du crash en Inde fait état de 265 morts. Air India le confirme. Il n'y a qu'un seul survivant, un Britannique qui voyageait avec son frère. L'avion Boeing qui devait rejoindre Londres depuis le nord-ouest de l'Inde s'est crashé peu après son décollage pour des raisons inconnues. Des enquêteurs américains se rendent sur place en renfort. 24 personnes ont été tuées au sol quand l'avion s'est écrasé sur un centre d'hébergement de personnel médical. L'eurodéputée LFI Rima Hassan est de retour sur le sol français après avoir été expulsée par Israël, intercepté à bord d'un navire humanitaire qui faisait route vers Gaza. Il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser le blocus, a déclaré l'élu, applaudi par ses soutiens, place de la République à Paris. Elle a en revanche vécu un vol mouvementé suite à un mouvement de voyageurs hostiles, d'après l'AFP. Le Conseil constitutionnel censure quelques articles mais valide en grande partie le texte de loi sur le narcotrafic. Il prévoit un régime carcéral d'isolement renforcé pour les narcotrafiquants les plus dangereux de France, des conditions de détention ultra sécurisées et un contact très limité avec l'extérieur. Le leader indépendantiste kanak, Christian Tin, a été libéré. Il a quitté le centre pénitentiaire de Mulhouse sans faire de commentaires. Interpellé il y a un an en pleines émeutes en Nouvelle-Calédonie, il est accusé d'avoir appelé à commettre des violences. Lui nie les faits. Placé sous contrôle judiciaire, il a l'interdiction de se rendre en Nouvelle-Calédonie. Un peu plus de 350 emplois sauvés sur les 1000 menacés à Jennifer. L'enseigne de prêt-à-porter est reprise partiellement par le groupe Beaumanoir. Offre de reprise validée par le tribunal. 26 magasins sont maintenus. Et puis la chanteuse Aya Nakamura entre au musée Grévin. C'est l'une des chanteuses francophones les plus écoutées au monde. La star franco-malienne s'est dit fière de voir une statue de cire à la peau foncée entrer au musée qui accueille plus de 800 000 visiteurs par an. La météo, des orages sur le nord-ouest avec de la grêle et de fortes rafales de vent ce vendredi. Des orages qui vont gagner en fin de journée l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Des orages aussi sur les Pyrénées. Les températures le matin comptaient de 13 à 21 degrés du nord au sud. L'après-midi, on va dépasser souvent les 30 degrés, sauf en Bretagne et sur les bords de Manche. 22 degrés à Brest, 24 à Cherbourg, 31 degrés à Paris, 35 pour la maximale à Bourges et Dijon. Et puis les courses à Vincennes, les pronostics de Dominique Cordier, le 4, le 16, le 8, le 2, l'As, le 7, le 15. Et l'outsider de RTL, c'est le 2, Hector de Bassière.
RTL, 24 heures d'info. Les grosses têtes de nuit.
3h, 4h30 sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui dans le grand studio une grosse tête qui fait son retour puisqu'il a toujours quelque chose à dire, le professeur Rollin.
Ouais, tout le monde.
Une grosse tête dont le nom évoque autant les pierres précieuses que le tambour, Caroline Diamant. Une grosse tête qui n'a jamais giflé Michel en sortant d'un avion, Chantal Latsou. Une grosse tête supporter du Paris Saint-Germain qui, après s'être fait tatouer Goldorak sur l'épaule, va sûrement se faire tatouer une première étoile sur les fesses, Florian Gazan. Une grosse tête qui va du début jusqu'au bout de l'alphabet de l'humour, Az.
Bonjour.
Et une grosse tête qui fond plus vite que la banquise, Yoann Rioux.
Bonjour.
Quoique, il me semble que petit à petit, vous reprenez, monsieur
Rio. Non.
Ah, si je vous aide un œil.
Non, mais je me suis consacré à Léa Salamé, parce que je voulais arriver pile pour l'émission de Léa Salamé, au sommet de ma forme. Et comme on enregistre.
Quelle émission de Léa Salamé?
Quelle époque, le samedi soir?
Oui, et alors?
Et donc, et je voulais être parfaitement bien ce soir-là.
Vous avez fait l'émission de Léa Salamé?
Oui.
Personne n'a regardé.
Personne n'a vu.
Si, moi, j'ai pas vu l'émission, mais j'ai vu un extrait sur Instagram.
Et ça s'est bien passé, alors?
Elle est très gentille, cette Léa. Franchement.
Oh bah elle lui a dit vous êtes tout beau, vous êtes... tout le monde l'a applaudi.
Moi j'ai arrêté de regarder depuis que vous y êtes plus, Laurent.
Merci As. Ouais. Depuis que vous y êtes plus non plus.
Comme par hasard. Ah,
je vous rappelle qu'on y était ensemble.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, t'as été chez Léa Salamé.
Ah oui, bah oui. Ah oui, il était avec moi, je l'avais engagé le petit hein, les dernières années.
Il était tout timide et tout, c'était touchant.
Mais c'est gentil parce que Laurent, quand il se fait virer quelque part, il te rembauche, oui, se rembauche derrière.
Tu vas être bien sur tes 18.
C'est pas interdit.
C'est pas grave, je suis.
C'est pas interdit. Qu'est-ce que vous avez raconté à la télévision française à Lorient?
Non, il y avait toute l'équipe d'Interville, les 6 personnes.
Ça devait être bien.
Donc soyez tous présents hein, donc sur France 2 le jeudi 3 juillet
bien sûr,
et c'est Beauvais contre Coulanges et Nevers.
Non,
ça change de PSG interminant hein.
Et donc il n'y a plus de vachette alors?
Non, il n'y a plus de vachette, ouais.
Et tu fais quoi toi, le cochon?
Moi je fais l'arbitre. Et donc après on a le derby du Nord et là c'est absolument extraordinaire, on va avoir vraiment Saint-Amand-les-Eaux qui va jouer un match à 8 km à Wallers-à-Rambert.
Le derby de la mort.
Là oui.
Florian, t'as toujours ta bagnole, on peut y aller. Il y a un petit saut à faire.
Le problème, c'est que j'ai le derby dans la montagne aussi. Gap contre Bourgoin-Jallieu.
Faites bien de nous prévenir pour les dates, on aura autre chose à faire. Non, franchement, alors.
C'est énorme, Laurent. Vous auriez jamais rêvé de faire Interville?
Non. J'ai invité Chantal là-dessous. Je fais déjà Intervieille. Comment ça va, Chantal? Il y a longtemps qu'on vous a pas vu, Chantal.
Oui, c'est vrai, oui. Ben, je tourne énormément.
Ben, ouais, bien sûr.
Mais elle tourne pour trouver une place, oui.
Ben, écoutez, j'ai des questions pour vous et c'est le grand retour du professeur Rollin, qui a toujours quelque chose à dire. Vous avez travaillé avec Chantal, hein, professeur, faut le rappeler.
Oui, autrefois, on a fait un des plus beaux spectacles de toute la carrière de Chantal, qui malheureusement est passé. Fait un bide, oui.
Bien,
même pas un bide auprès du public, mais c'est les producteurs qui croient toujours tout savoir, qui nous ont dit que non, ça allait pas bien. Bon, c'est un très mauvais souvenir commercialement, mais humainement. Ça...
Oui.
Ah oui. Ils nous ont plantés, ils nous ont dit non, ça va pas, c'est pas bien, et tout ça. On avait utilisé cette salle du musée Grévin d'une manière absolument magique, on avait enlevé tous les rideaux.
Ah, peut-être les gens ont eu peur qu'une statue ait bougé avec Chantal,
Non, c'était façon Bouffe du Nord, façon Peter Brook.
Je pense que vous devriez écrire un livre sur ce truc.
Mais c'est fait, mais personne n'a voulu l'éditer.
Une première citation, revenons à la tradition, pour monsieur Yves Fouquet, qui habite Franconville, qui a dit « Quand l'homme a découvert que la vache donnait du lait, que cherchait-il exactement ce jour-là »
Est-il français et mort?
Il est francophone et vivant.
Philippe Gueluc.
Et Philippe Gueluc, c'est Philippe Gueluc. Bonne réponse de Florian Gazan. Pour Mathias Martin, qui habite Drumettaz-Clarafond, c'est en Savoie, qui a dit « Les personnes qui ne connaissent pas encore ma grand-mère sont priées de se dépêcher. On ferme le cercueil à 14h.
Pierre Légaré.
Mais non, c'est signé.
Jacques Martin.
Mais non.
Pierre Dac.
Mais non.
Pierre Doris,
évidemment, c'est de l'humour noir. Pierre Doris. Pour Ariel Klein, quelqu'un qu'on retrouve moins régulièrement, pour ne pas dire jamais, dans les citations, dans cette rubrique des phrases drôles, mais c'est vrai qu'il a dit parfois des choses très drôles, c'est quelqu'un qui a dit « Las Vegas, c'est le Disneyland des vieux ».
Ah, Johnny Hallyday, peut-être.
Johnny Hallyday. Non,
c'est un américain.
Mais il y a un point commun avec Johnny Hallyday.
Lynn Renault.
Non.
C'est un chanteur?
C'est un chanteur, bien sûr.
Un chanteur mort?
Un chanteur mort, oui.
Français?
Français, absolument.
C'est Jérôme.
Henri Salvador. Bonne réponse de monsieur Haz. Comment ça se fait que vous connaissez Henri Salvador?
Ouais. Henri Salvador, quand même, c'est un monument, Henri Salvador. Oui. Là, ça va.
Ah, qu'est-ce que vous connaissez d'Henri Salvador?
Je venais de mon
aimer. Ça, c'est vrai,
le jardin d'hiver.
Ah, c'est la dernière chanson.
La dernière, ouais. J'ai écouté que la dernière, moi, avant qu'il meure.
Le jardin d'hiver, signé Keren, Anne et Benjamin Violet.
Non, mais Haz, tout jeune soit-il, il ne peut pas ne pas connaître Zorro est arrivé. Si, si tu connais.
Zorro est arrivé?
Oui.
Il est où?
Et il ne peut pas connaître le travail, c'est la santé. Tu ne peux pas l'ignorer non plus. Rigolo.
Le travail, c'est la santé, je connais l'expression, mais pas le, je ne savais pas que c'était une chanson.
Le travail, c'est la santé. Rien à conserver. Les prisonniers du boulot.
Moi, j'arrête, ça fait pas jeune.
Je vais y aller, moi. Je vais faire un petit
tour. Moi, je la connais pas, moi. Henri Salvador a surtout créé une chanson que même les plus petits connaissent aujourd'hui.
Bien sûr.
Oui, oui, petit Papa Noël.
Mais non. Mais non, ça c'est Tino Rossi.
Big Bisou,
c'est Carlos.
Non, c'est une très jolie chanson.
Mais tu veux mon kiki,
Non, j'ai les
anniversaires. Mais non.
J'ai anniversaire, c'est lui.
Mais non,
c'est une berceuse.
Non, c'est une berceuse pour enfants.
Une chanson douce que me chantait ma maman. Qui est
ça quand même vous connaissiez, voyez.
Bah oui.
Eh ben ça c'est Henri Salvador aussi. Et aussi ce qu'on est bien quand
on est dans son bain.
On fait des grosses
bulles, on joue au sous-marin.
Il y a Syracuse aussi évidemment.
Ah oui.
J'aimerais tant voir
Syracuse.
Il a écrit la mélodie.
Les jardins de Babylone.
Les paroles sont pas de lui, les paroles sont d'un autre auteur.
Non mais on parle de chanter, les autres sont pas forcément de lui non plus, monsieur Rollin. On parle de tubes qu'il a créés.
Il y en a beaucoup qu'il a créés.
Si t'es venu pour niquer la soirée, tu le dis maintenant.
Une citation pour Manon Larcher, qui habite Beaupréau en Mauche, dans le Maine-et-Loire, qui a dit « La drogue, c'est une catastrophe, on n'en trouve plus !»
Thierry
Ardisson.
Ça, c'est un stand-upper américain.
Non, c'est un stand-upper français, né en 59.
Timsit.
Et c'est Patrick Timsit. Bonne réponse de Monsieur H.
Les grosses têtes de nuit,
3h, 4h30 sur RTL.
Tiens, on va commencer par une question culturelle pour Laure Chichon. Même Chichon habite Versailles.
J'en ai jamais fumé, en tout cas.
Pardon ?
J'en ai jamais fumé.
Est-ce qu'on vous a posé des questions ?
Vous saviez très bien qu'on allait vous tenter.
Non, j'ai pas fait le point. Même Chichon, elle m'a envoyé une question. Elle m'a dit, veuillez trouver 6 juin.
Je me suis dit, c'est bizarre qu'on lui envoie une question.
La question est vraiment culturelle, alors. Attention. Eh oui, puisque je vais vous demander quel célèbre poète, il s'agit de retrouver donc un poète, vous l'aurez compris, quel célèbre poète fut le valet de chambre de François Ier ?
Eh ben c'est facile, parce que François
Ier... qu'il fallait vivre à l'époque de François
Ier. Exactement,
Ier.
Voilà. Déjà, ça veut dire qu'il faut être contemporain de François Ier.
Alors François Villon, c'est trop...
Ah, ce n'est pas François...
C'est quelle année, François Ier ?
Alors
François
on est... 1515, vous avez retenu 1515.
1515,
Marignan. Pierre Ronsard.
Quoi ?
Pierre Ronsard.
C'est pas mal, Ronsard, mais ce n'est pas Ronsard.
C'est pas Paul-Éloire ?
C'est pas... Ah bah Paul-Éloire, c'est du XXe siècle,
Il a vécu très vieux.
Oui, si.
Ou un peintre.
On est au XVIe siècle. Non, un poète, pas un peintre.
Il c'est pas celui qui... Il faisait que de la poésie, ouais, ou bien il faisait aussi un peu des livres.
Rabelais.
Je pense à Rabelais, ouais.
C'est pas mal, Rabelais, mais ce n'est pas
Ronsard. Joachim Dubellay.
Ronsard non plus. Dubellay. Ah, moi, j'en voudrais bien Dubellay.
Rousseau.
De Glaçon.
Ah, Dubellay.
Ouais. Ah, j'aime pas du tout.
Jean-Jacques Rousseau. Bon.
Est-ce qu'il a une station de métro à Paris, un lycée?
Une rue.
Une rue.
Ça, c'est certain.
Un boulevard, une avenue.
Une rue qu'on a tous forcément plus ou moins fréquentée.
Ah bon? Pigalle,
la rue Saint-Denis.
Bah, excusez-moi, mais non, moi je
Pigalle, connais... c'était un sculpteur, monsieur Haas.
Ah bon? Oui. Il a laissé des belles sculptures là-bas.
La Pigalle et la fourmi, hein, on le connaît bien.
Qu'est-ce que vous dites?
La Pigalle et la fourmi.
Oh là, il est en forme.
Wow, ah, chiant. Wow, ouais. Je commence l'émission. Bon, j'ai quelques minutes de retard, mais je vais être un gros yo-yo ce soir. Ouais,
tu veux pas la terminer, l'émission?
Avec une toute petite ficelle.
C'est ça. Surtout, ne me montrez pas où est la ficelle. Ah bah,
je veux dire qu'elle s'enroule pas, la ficelle.
Alors, attendez.
Matignon.
C'est quoi Matignon?
Montaigne.
Ah ouais, tu fais des anagrammes.
Ah oui, t'as vu mon cerveau, il a vrillé.
Un gros jeu sur RTL.
Et dans quel jeu je suis?
Non, dans quel asile?
Alors, évidemment, c'est en François et pas en français, donc les poèmes sont un peu durs à lire tels qu'ils étaient, mais évidemment, on les a refrancisés depuis, parce que c'est du vieux François. Mais je peux, par exemple, vous lire ceci. « Peuple séduit, endormi en ténèbres, tant de longs jours par la doctrine d'homme, pourquoi me fait tant de pompes funèbres, puisque ta bouche inutile me nomme. Tu me maudis quand tes amis assomment, mais quand se vient qu'aux obsèques on chante, le prêtre a donc qui d'argent en assomme, ne me dis pas maudite ni méchante. » C'est pas très clair.
Okay. Si,
ressemble beaucoup à François Villon. Hein,
c'est pas
de
François Villon.
Alors moi, j'ai du François Villon craché. Hein.
Ah ouais, c'est quelqu'un qui est mort à Turin et qui est cadurcien d'origine.
Platini.
Cadurcien, c'est le gentilé de quelle ville? Cadurcien.
Cahors.
Cahors. Bravo, professeur. Donc,
il est Cahors, c'est une ville de quel pays?
France. Il est né à Cahors, il est mort à Turin, c'est un des plus grands poètes français du XVIe siècle.
Laurent, il a une particule?
Ah non, pas du tout. Non, non, non.
Il a un prénom standard?
Il a un prénom. Toujours à la mode aujourd'hui.
Théodore.
Non, non, non.
Il est étudié à l'école encore aujourd'hui.
Oh,
Kevin. Théophile.
Kevin.
Kevin, non.
Ça peut pas être Théophile.
Allez où la rue? Non, non.
Allez
où la
rue? Simon.
Simon, non, non.
Allez où la rue?
Ah, quoi, allez où la rue? La rue, c'est pas écrit Waze ici.
Jean Goujon.
Jean Goujon, on se rapproche.
Oh, ah, c'est un Jean alors.
C'est un Jean.
Jean Richepin.
Non, je veux dire, on se rapproche dans le quartier.
Du quartier, je savais que c'était.
C'est où Jean Goujon?
Près de la rue Bayard. Rue de la Trémoille, c'est la Trémoille.
Ah. Non, non. Je vous ai dit qu'il était valet de chambre de François Ier. Vous savez bien qu'il y a un quartier dans Paris qui réunit tous les noms de cette époque.
Eh ben, je viens de comprendre.
Voilà.
J'avais jamais fait.
Ah, c'est dans le carré d'or, là?
Oui, exactement.
Le triangle d'or.
Ah, c'est le triangle d'or. Ah,
oui.
La Boétie.
Faites confiance aux émirs, ils en ont fait un carré.
Marbeuf.
Marbeuf, non.
La Boétie.
La Boétie, non.
Attendez, je vais vous faire le quartier.
Ouais.
J'ai beaucoup quadrillé.
Ouais.
Attendez.
Elle a marché avec son sac à main, croyez-moi.
Ouais, ouais. Avec mes deux sacs à main. Attendez.
Ouais, c'est qui?
Alors là,
alors tu montes.
Jean Goujon. on va pas jusqu'au tour de l'étoile, c'est pas Tilsit.
Ah non, on reste du côté d'Europe 1.
C'est pas à côté de la pharmacie, là?
Du côté d'Europe 1 et de RTL, mais plus du côté d'Europe 1 que de RTL.
Je vois. C'est quand on est.
Ah, rue Vincent Bolloré?
Non.
Non. C'est celle qui va entre là.
On vous parle du vrai Europe 1 et du vrai RTL.
Non. Je vous jure que je l'ai. C'est Clément Marot.
Et oui.
Mais oui.
Ah voilà.
Et comme quoi le trottoir ça mène à tout.
Ça sert le tapin.
Et c'est une rue très riche, c'est une rue vraiment beaucoup de richesse, beaucoup de...
Ah bah non, quand même le quartier par là-bas, ah ouais, oui, effectivement, plus le quartier Marbeuf, enfin c'est effectivement les quartiers où se trouvaient Europe 1 et RTL quand on était encore riche, vous voyez.
Ah, c'est pas
on est bien Neuilly quand même. On est...
Pardon,
c'est
quand même une banlieue difficile ici. Ah ouais.
C'est chaud, hein. Moi dès que je passe le périph', je flippe. Hein, ben.
Ils font pas Interville, Neuilly, cette année?
Non. Ils font l'année prochaine.
Ils font Interville contre le Valois. Si c'est Balkany l'arbitre, il n'y aura pas de triche. Allez, tiens, si vous voyez un cénobite, de quoi s'agit-il? C'est une question pour Vincent Chatillon qui habite Aubervilliers.
C'est un moine.
Alors?
C'est quelqu'un qui vit dans une grotte. Un ermite.
Pas un ermite, parce qu'un ermite, ça peut être solitaire. Ouais. Un cénobite, c'est...
Un ermite en bande.
Quelqu'un qui prie en bande, ouais.
Exactement, on peut dire ça. Un ermite en bande, le splendide. Un ermite en bande, un moine en communauté. Bonne réponse de Caroline Diamant.
Les grosses têtes sur RTL, la rediff. RTL.
Les grosses têtes répondent aux auditeurs.
Vincent est le premier auditeur qui voudrait évidemment intervenir pour qu'on répare quelques dégâts. C'est bien ça, Vincent, bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Bonjour.
Exactement.
Vous avez cassé votre mug RTL.
Oh.
Bah oui.
Comment vous avez fait?
Non, j'ai cassé mon mug et du coup, je me suis dit, ah, tiens, un petit mug RTL, ça pourrait être sympa.
Ah bon, oui. Mais je croyais qu'ils étaient en fer.
Non, il avait un mug à lui, voyez.
Oui.
Ah. Il a cassé son mug à lui et voudrait pour le remplacer un mug à notre nom. Les nôtres sont incassables, ils sont faits.
Ah oui.
Made in Taiwan.
Ah ouais.
Je vous le donne, monsieur Sobi. Là, j'en ai un en ce moment, un mug où je prends mon thé pendant toute l'émission, je vous le donne.
Non, mais il en veut un propre.
Non, un propre, ouais.
En plus, il était bréché.
Il est bréché, le tien.
Et alors, surtout, vous voudriez dire quelques mots à Caroline, parce qu'on a parlé d'Abercrombie & Fitch la semaine dernière.
Ouais.
Et on a dit que cette marque était une marque où les magasins étaient dans le noir, que ça sentait bon, et que c'était que des mannequins qui étaient les vendeurs ou les vendeuses dans ce genre de boutique. Et vous avez travaillé vous-même chez Abercrombie & Fitch, c'est ça?
Bah, faut nous envoyer votre 06. Ça veut dire que vous avez un beau torse.
Ouais, mais je suis pas trop pour vous, Caroline.
Ah oui, bah, non mais, attendez.
Prendrai le téléphone.
Ah, je crois avoir compris. Ah,
quand oui, j'ai dit qu'il faut nous envoyer, c'était aux grosses têtes, hein, je pensais pas à moi. Hein.
Et alors, ça veut dire que vous aviez été engagé pour votre physique, Vincent?
Non, non.
Ouais. Ouais, non, on va pas se mentir, à l'époque c'était quand même une grosse discrimination à l'embauche.
Ah, quand même.
Ah, pour travailler dans une parfumerie,
mais
faut
merci
être beau
de me donner raison, parce que je me suis fait...
C'est un magasin de vêtements, c'est pas une parfumerie, en fait, les vendeurs étaient torse nu là-bas. C'est
ah ouais.
Non, pas tous, pas tous, il y en avait que un qui était torse nu et il était à l'entrée pour se faire prendre en photo, et moi généralement j'étais celui qui surveillait le petit carré à l'entrée du magasin, la vue directe sur ce mannequin en...
Ah oui, c'était, vous étiez le moche.
Ouais.
Mais vous dites d'ailleurs que ça n'est pas terminé, il y a une boutique qui vient d'ouvrir à Nice, c'est ça?
Ouais, ouais, elle a ouvert il y a quelques années, mais du coup il y a encore la possibilité d'aller chez Abercrombie à Nice. Ouais.
Donc
ouais,
ça existe encore en France.
Mais ils ont mis un vieux torse nu à l'entrée à Nice.
C'est Estrosi, il fait tout lui-même.
À qui il faut que j'envoie mon CV, monsieur?
Alors, à l'époque, on notait les gens entre 0 et 3.
Ah oui, carrément.
Oh merde.
Ah, ça laisse pas beaucoup de marge.
Il y avait un papier là-dessus.
Mais 3, c'est le maximum ou c'est... Oui, 3, c'est le maximum.
Oh, c'est... Non, et 3... faut être 0 ou 3?
3, c'est le maximum et Johan...
Moins 1.
Moins 10, moi, je dirais.
Non, mais surtout, quand on rentrait dans ces boutiques, pardon, il n'y avait pas de fringues. C'était pratiquement vide. Il faisait noir, pratiquement. Ça sentait très,
moi,
très,
quand
très
même
fort.
Acheté, j'ai encore un short à Abercrombie & Fitch.
Oh, elle était bien, la marque.
Que je mets, oui, c'est très doux, très doux sur la peau.
C'est vrai. Ouais, mais ça s'est dégradé après. Et c'est
vous parlez de ma peau, du short.
Les deux.
Votre peau.
J'ai pas touché la peau.
Ah. Vincent, des propositions, décidément. On vous envoie le mug.
Merci.
Jessica, bonjour Jessica.
Bonjour.
Ah, Jessica, je voudrais revenir sur l'hommage qu'on a rendu à Nicole Croisi. On a passé quasi tous les succès de Nicole Croisi il y a maintenant une dizaine de jours, sauf, dites-vous, une chanson. Mais c'est vrai que là, c'était, ça aurait été mal vu qu'on la passe ce jour-là, cette chanson-là.
Vous c'est vouliez, vrai, c'est vrai, j'avoue.
Vous vouliez qu'on passe la chanson que Nicole Croisi a enregistrée avec les Charlots, c'est ça?
Oui.
Eh oui, parce que vous connaissez cette chanson qui s'appelle
Avien.
Ah, viens. Ah, voilà. Ouais. Et c'est une chanson un peu érotique. Et c'est vrai que Nicole Croisi avait pris un pseudo pour enregistrer avec Gérard Rinaldi, puisque c'était le leader des Charlots. Il avait
une voix. Mais c'est bizarre, un pseudo pour la voix. Pour écrire, je peux comprendre.
Non, c'est sa maison de disques à Nicole Croisi qui avait dit, fais attention quand même. Tu chantes des chansons romantiques et tout. Tu vas pas en plus faire des chansons cochonnes avec les Charlots. Mais elle l'a fait.
Ma chatte s'endort sur le sofa.
Ah, c'est sexy.
Je t'allume une cigarette.
Je te mets un doigt de vodka et te suce sur des mots tout bêtes.
Honteux.
Un désir de tendresse t'habite dans la gorge. J'ai comme un nœud.
Je sens bien ton trouble et très vite je baisse ton front et tes yeux. Adieu. Ah bien, ah bien, prenons notre pied, la terre pour une île, et laissons-nous glisser dans le cours.
Vous comprenez mieux, Jessica, pourquoi on n'a pas passé la chanson le jour de sa disparition.
Attendez, le deuxième couplet, il y a suce-moi le gland. On peut la remettre.
C'est vrai que passer ça le jour de la mort de Nicole Croisi, ça aurait été un délicat, alors que là, c'est l'enterrement aujourd'hui.
Oui. Ça va faire mieux.
Ça va faire plaisir à Louche, c'est un homme dans une femme.
Mais bravo, Jessica, en tout cas, d'avoir effectivement eu la mémoire de cette chanson. Nicole Croisi, ça en est la preuve, avait quand même beaucoup d'humour. Jacques, maintenant. Bonjour, Jacques.
Bonjour. Oui. La Blanche Albion vous salue.
Ah, parce que, oui, vous êtes en Angleterre, c'est bien ça, Jacques?
Absolument. J'ai écouté M. Bouvard depuis le début, je pense.
Yes, Phil Bouvard.
Yeah, Phil Bouvard. The big head from Phil Bouvard.
Puisque vous êtes outre-Manche depuis 73, et l'émission a démarré en 1977, et d'ailleurs, vous avez 77 ans, tout concorde, Jacques.
Absolument, absolument.
Bien
voilà,
sûr.
Je suis malvoyant.
Oui.
On m'a offert un smart speaker et je n'arrive pas à me connecter sur RTL
oui.
avec cela. J'ai France Inter sans problème,
oui.
mais RTL ne passe pas.
Ah.
Est-ce que vous pourriez avoir l'obligeance de me mettre en contact avec le service technique
oui.
qui puisse bien m'expliquer sûr. Comment je peux écouter RTL sur mon smart speaker?
D'accord.
Oui, bonjour, c'est Christophe du service technique. On vous a mis en relation avec moi apparemment parce que vous avez un problème de vue.
Ah oui, oui, c'est ce qu'on appelle la plateforme au Maroc.
Ha, 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 ha,
Mirx, maintenant, est au téléphone. Salut, Mirx.
Bonjour.
Bonjour. Mirx a l'air sérieux. Il nous écoute 330 km par semaine.
Non, 660. Ah. Je fais l'aller-retour.
Ah bah oui, bien sûr. 300, mais pourquoi vous faites tant de kilomètres pour aller quelque part et en revenir ?
Eh ben c'est simplement parce que je travaille à Berne en Suisse et j'ai la maison où je compte passer ma retraite à Cluny en Bourgogne.
Aïe. Donc pendant le trajet...
Je fais donc la route avec les podcasts que j'écoute les uns à la suite des autres. Et là, donc, la doléance que je vous ai envoyée, simplement, j'ai constaté, ça fait 2 semaines que régulièrement, je me retrouve avec des morceaux d'un podcast que je viens d'écouter dans un autre podcast en voiture. Et c'est un peu pénible. J'aimerais bien retrouver mon Bénichou, mon Péroni.
Je vous repasse la plateforme.
Oui, c'est Christophe. Il y a un nouveau problème, monsieur. C'est pour... On vous met en contact avec le malvoyant. Bonne journée.
Bon. Non, bah, c'est vrai que la direction a fait ce choix, je n'y suis pour rien, mais c'est la direction qui s'est dit, tiens, c'est mieux de mettre les best-of de la semaine plutôt que ceux des saisons passées. On l'a signalé à la direction, Mirx.
Ils s'en foutent, mais on leur a dit.
Voilà, bah, écoutez, c'est très bien d'ailleurs.
Il faut que je vous dise quand même comment elle s'appelait, Nicole Croisy, sur ce disque.
Ah oui,
ah bah oui.
Elle avait pris un pseudo, et devinez quel pseudo ? Débis Touquette. Oh. Ça s'invente. Pas quand même. Ça prouve qu'elle avait de l'humour, des bistouquettes, alias Nicole Croisy.
Jusqu'à 4h30.
Écoutez ou réécoutez les grosses têtes sur RTL.
Ah, une question sportive pour vous, Ryu, peut-être pour Florian aussi, qui quand même suit tous les sports et le tennis. Qui n'a pas regardé ce match le week-end dernier? Match fabuleux, Johan Ryu contre Laurent Ruquier. Oui.
On a fait la finale avant l'heure ici.
Je parle évidemment de la finale de Roland-Garros, remportée par Carlos Alcaraz, qui quand même, il faut le dire, est entraîné par un autre Carlos, Juan Carlos
Ferrero.
Ah, je croyais le roi.
Non, Juan Carlos Ferrero, qui lui-même, il faut le dire, a gagné Roland-Garros. C'était en 2003, donc si vous voulez, il a quand même un entraîneur qui s'y connaît finale de Roland-Garros. Juan Carlos Ferrero lui-même avait effectivement, on le surnommait le moustique à l'époque, Mosquito, oui. Et il avait gagné ce droitier à Roland-Garros, et vous me voyez venir avec ma question. Contre qui avait-il gagné Roland-Garros ?
En 2003 ?
En 2003.
Est-ce que c'est un Espagnol ?
Un Espagnol, non.
Chang,
un russe sud-américain,
un russe, non.
Marcelo Rios, peut-être.
Ah non.
Ouais,
non.
Mais n'importe quoi.
Marcelo Rios, est-ce que c'est un Européen?
Alors c'est un Européen, oui. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, moi, dont j'avais oublié le nom, c'est vous dire si, à mon avis, cette question peut quand même rapporter 300 euros à la personne qui ne l'a pas envoyé, je le dis pour l'auditeur, alors, qui nous écoute depuis longtemps.
Ah ouais, non mais il nous entend pas. Joe Pesci.
Non, je rappelle la question Pesci, c'est dans les années 70.
Victor, d'ailleurs.
Et je rappelle donc les faits. Hein. Carlos Alcaraz a donc gagné le week-end dernier. Il faut savoir que son entraîneur, Juan Carlos Ferrero, lui-même, a gagné Roland-Garros en 2003. Mais contre qui ?
C'était un Suédois, c'était Mats Wilander.
Non.
C'était un Suisse ?
Un Suisse, non.
C'est pas un Anglais, Laurent ?
Un Anglais, non.
Alors c'est un Italien.
Il mesurait 1m96.
Alors c'est forcément un grand.
C'est bien vu, Caroline.
Il était droitier, il possède un revers à une main. Enfin, il possédait à l'époque, aujourd'hui. Il
doit Boris Becker ?
Non.
Est-ce que ce gars-là a gagné des Roland-Garros ?
Je serais surpris, non. Roland-Garros, sûrement pas. Je me souviendrai de son nom tout de même, parce que là, vraiment, c'est quelqu'un que j'avais oublié.
Ah, c'est genre un mec qui a fait une finale de Grand Chelem.
Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous laissez, déjà pas mal.
Est-ce que c'est plutôt l'Europe du Nord, Laurent ?
Les Français aimeraient pouvoir en dire
est-ce
autant.
Est-ce que c'est plutôt l'Europe du Nord ?
Oui.
Moi je pense que c'est un Danois, c'est un truc à la con, comme ça. Enfin, à la con. Non, pas le pays, mais je veux dire Suédois, Danois,
allez, Florent,
Hollande.
Non,
Hollande, c'est un Allemand, Hollande, je brûle, c'est la Hollande.
C'est la Hollande.
C'est la Hollande.
Ah, comment il s'appelle ?
Non, il y a beaucoup de gens.
Richard Krajicek.
Non.
Michael Schepers.
Non plus.
Ah, ça va, balance pas n'importe quoi.
Je crois qu'il est pas néerlandais, Richard Krajicek.
Ah, je vous ai bien piégé là sur cette question.
Mais dites voir, Laurent, vous nous auriez dit le nom comme ça, ex abrupto et en dehors de toute autre chose. On aurait su que c'était un tennisman.
Alors
même
moi, je vais vous dire, jamais je vous aurais dit son nom ex abrupto parce que je sais pas ce que ça veut dire.
Moi, j'ai cru que c'était le mec
merci
de la finale.
Madame.
Moi, j'aurais dit que c'est un ex-violent avec sa brusto, non?
Non, non, mais...
Est-ce que c'est un... Il y a quand même une consonance hollandaise, néerlandaise.
Moi, j'aurais confondu, oui. J'aurais peut-être confondu avec un cycliste, pour tout vous dire.
Van Den, ah, oui. Quelque chose.
Van der Poel, ouais,
Van der Schmutz.
Mais quand même, finale de Roland Garros contre Juan Carlos Ferrero.
Van der Nicht.
Non, non.
Van Den Steen.
Non, non.
Vermeulen.
Non, non.
Van Nistelrooy.
Non.
C'est pas bête, Vermeulen.
Zotomelk.
Van Schip. Van Schip.
Et d'ailleurs, c'est même écrit, je vais vous dire, dans la fiche Wikipédia de Juan Carlos Ferrero. L'année 2003 est incontestablement la meilleure saison de Juan Carlos Ferrero. En effet, il remporte son premier titre du Grand Chelem à Roland Garros face au surprenant. Et oui, ça, pour être surprenant, il est surprenant. Et donc, Ferrero gagne 6-1, 6-3, 6-2.
Ah, il était vraiment nul,
alors,
en plus.
Alors, dans les prénoms hollandais, moi, je sens du Eric.
Dave.
Alors, c'est un prénom qui est international.
Vermeulen.
Et qui est même français.
Ok. Ah,
ça commence par un V ou pas?
Pardon.
Ça commence par un V ou pas?
Le prénom ou le nom?
Le nom.
Le nom, oui.
Ah, hey, dis donc, c'est pas possible, ça. Ça fait 10 ans que je réclame des initiales que vous les refusez systématiquement.
Non, mais il les refuse quand le nom est célèbre.
Ouais, mais attends.
Non,
si
il les refuse
Platon.
Dans tous les cas.
Non.
Oui, mais c'est mon petit as qui m'a demandé.
C'est ce que je constate.
Non, et puis maintenant, il y a la roue de la fortune sur M6 et le groupe, on a le droit.
Ah, oh, mais je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est un truc de fou.
Ah, oh, bah, la montrez pas.
Non, c'est vrai que de temps en temps, il donne les initiales.
Qu'est-ce que vous dites, Chantal?
Je dis, de temps en temps, vous donnez les initiales, faut savoir vous prendre.
Ferlecten.
Quoi?
Ferlecten.
Non.
C'est pas Vermouth ou quelque chose comme ça.
Je suis pas mécontent, quand même, de piéger Florian Gazan et Johan Rioux sur en plus une actualité tennis importante, quand même.
Oui,
vous
oui.
Devriez le savoir.
Non mais, mais Laurent, vraiment.
Je crois que je l'ai.
Allez-y.
Ah, c'est pas Vinclair.
Ah non, Vinclair.
Van der Sar.
Non plus, non.
C'est
non.
Pas vraiment. C'est il n'y a pas du faire quelque chose. Ah. Si je sais que c'est ça. Non mais
Vert de gris.
Je vois qui c'est. Je vois son visage.
Non, c'est la F1.
Vanout.
Quoi?
Vanout.
Ah, ça c'est votre chocolat en poudre.
Non, c'est Vanouten, le chocolat en poudre.
Oh là, Verbus, Paul Verbus.
Yann Verbeek.
Comment vous dites?
Yann Verbeek.
Non.
Ah, c'est pas Verbeek.
Pas loin. Hein.
Verbeek, c'est un jockey.
On n'est pas loin.
Non. Et il a une particule.
On n'est pas loin.
Verbeek, Verbouk, Vertop, Verbeek.
Verbeek.
Mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est.
Non,
mais...
Verbruggen.
Vertingen. Verphasen. Oh.
Verstappen.
On va faire tous les verbes
bien allemands. J'ai envie de me flageller, quoi, parce que je dois savoir ça quand même.
Moi aussi, j'ai envie de te flageller.
Je suis OK.
Mais c'est cher, tout ça.
Ah, non, je dis-moi combien. Alors,
Et donc, voilà rue Clément Marot.
Verstricht.
Non. On va donner 300 balles. Et voilà, c'est parti. Bravo. Oh. Enfin, bravo à personne, d'ailleurs.
Ouais, mais peut-être qu'on va donner 400.
On va peut-être donner 100 euros de plus. Est-ce que quelqu'un qui s'y connaît en tennis a le nom dans la salle? Non, voyez comme on peut oublier les finalistes de Roland-Garros. Juan Carlos Ferrero, l'entraîneur de Carlos Alcaraz, avait gagné Roland-Garros lui-même en 2003 contre Martin Verkerk. Verkerk. On l'a tous oublié.
Même sa famille.
Ah ben oui, mais quand même, il était là en finale contre Juan Carlos Ferrero qui a gagné.
Alors, certainement. Déjà, il a un nom qui n'est pas très beau.
Oui.
Sûrement que le physique n'était pas beaucoup mieux. Parce que sinon, on se souvient de ceux qui sont beaux et qu'on n'a pas vu beaucoup.
Comme Victor Pecci.
Ah ouais, Victor Pecci.
Son petit diamant.
Sa boucle d'oreille, son petit diamant bien en avance sur la mode, d'ailleurs.
Bien en avance.
Bien en avance.
Ah ouais, bien en retard.
Ah là là.
Ah, je crois que Laurent, vous l'adoriez, me semble-t-il, non? Vous êtes
Victor Pecci.
Oui, c'était pas lui que vous. C'était pas lui. Est-ce que je peux dire la chose que je connais l'histoire? Est-ce que. Non, mais. Laurent, mais je veux pas créer de problème. Hein. Je veux pas que ça soit repris dans Gala,
pourquoi
par image.
Attendez.
Avec qui les problèmes?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec
je vous explique.
Il s'est rien passé du tout.
Mais vous coupez pas en régie parce que je connais l'histoire. Vous l'avez raconté. Après délocalisation. Oh, je suis fier de moi. Il y avait Olivier Bellamy à côté de vous au repas. C'était je crois qu'on avait fait l'émission un soir de Ligue des Champions cette année. Et vous aviez dit, oh, mais j'ose pas trop, hein. Ça a été.
J'ai dit que.
Ça a été vos premiers, c'est moi qui dis. Ça a été vos premiers, ça a été votre premier mois. C'est là que vous êtes rendu compte, peut-être,
exactement.
Que vous étiez que vous alliez devenir homosexuel.
C'est cette année-là que j'ai compris peut-être que je pouvais être attiré par des garçons.
Ah, c'est vrai.
À cause de ce joueur.
Vous rendez compte quand je. Ah, quand
que
vous
si
parlez,
vous
je vous
ai. Roland Garros, vous serez non, quoi. Mais ah, c'est la meilleure celle-là.
Non, parce que moi je regardais. Mais j'ai les mêmes goûts avec Laurent au même âge, on est de la même année en tout cas.
Mais Laurent, c'est une histoire extraordinaire comme vous êtes lié à Roland Garros.
J'avais quand même déjà 35 ans.
Ouais, c'était un repas.
Il y a eu deux dates comme ça. Il y a eu effectivement, j'ai compris ce jour-là sans vraiment comprendre, mais que c'était ma première émotion.
Ah.
Et puis quand je suis redevenu hétéro, c'est quand je vous ai vu avec Jean-Luc Lemoyne dans l'émission. Sur France 3, un samedi. Là, dans Samedi dans Rire, je me suis dit, tiens, finalement, non.
RTL.
C'est vrai, il y a la marque préférée des Français. Étude Opinionway mars 2024. Conditions en centre et sur norauto.fr.
Les grosses têtes sur RTL. La rediff.
Une question pour François Delia. Question assez originale. Monsieur Delia habite dans les Alpes de Haute-Provence. Qu'est-ce que le père de Michel Berger a fait le 18 décembre 1958?
Oui, il a opéré quelqu'un parce que c'était un grand cardiologue, un grand chirurgien.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là?
Opération, il a fait peut-être la première greffe de
du cœur.
Ou alors c'est lui qui a fait la première greffe,
mais de quoi?
Du cœur.
Non, du foie, de valve.
La première. On est en quelle année?
On est en 52.
Il a greffé. Qu'est-ce qu'il a pris?
C'est pas le cœur. Alors, c'est pas le cœur.
Peut-être.
Foie, non.
Un rein.
La première greffe du rein a été faite par le papa de Michel Berger. Ouais. Bonne réponse.
Le professeur.
Monsieur Hamburger,
Hamburger. Ah, l'autre, si, il pense qu'à bouffer.
La première greffe de frites.
C'est mon passé qui revient.
Le professeur Hamburger.
Moi, j'étais persuadé qu'on disait hamburger,
si,
en plus.
Si on était dans le pays où il est né, s'il n'était pas né en France, on dirait hamburger, mais en France, on dit hamburger.
Ah, d'accord. Ah, bah oui.
Ils avaient des rapports compliqués, me semble-t-il.
Je pense que quand t'es professeur de médecine, t'as pas envie d'avoir un fils chanteur, mais Dieu sait pourtant qu'il était doué.
Ah,
j'ai eu une passion, moi.
Ah, c'est vrai, vous aimiez bien.
Mais une passion pour Michel Berger.
Je trouve que tout ce qu'il a fait, il a aimé le piano. C'est peut-être pour vous qu'il a fait la groupie du pianiste.
Oui, comme si je restais debout, moi.
C'est peut-être un détail pour vous, mais pour vous, ça veut dire beaucoup.
Non, je l'adorais.
C'est vrai.
Ah ouais.
Pour Yvette Rincy, qui habite Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, pouvez-vous me dire quel mot le petit déjeuner allemand a donné chez nous?
Frühstück. Alors, un frühstück
qui vient de frühstück. Bonne réponse.
J'ai jamais entendu ce mot.
La frühstück, c'est le petit-déj.
Petit-déjeuner en allemand se dit frühstück. Et chez nous, effectivement, on dit parfois du frischti. Ah. Et le frischti, ça vient du mot frühstück.
Pardon, Laurent, on ne dit pas du frischti, on dit un frischti. Ah oui, non, je suis formel.
Moi je veux bien, mais si vous me le disiez aimablement.
Oui.
Alors
mais
ça,
c'est un autre stage.
Ouais. C'est vrai qu'on dit un frischti et des frischto.
Et en plus, on l'associe pas forcément au petit déjeuner.
Oui.
On dit, tiens, on se fait un petit frischti.
Voilà. Ah, mais j'ai pas dit qu'on l'associe.
Non, il a pas dit qu'on l'associe
au petit déjeuner. J'ai dit que le mot venait du petit déjeuner allemand. Et le mot frühstück a donné. Et moi, pardon, monsieur Rollin, mais je vais être en désaccord avec vous. J'ai déjà entendu mes parents qui ont caché des Allemands pendant la guerre.
À mon avis,
eine kleine Frühstück, Hans.
Et j'ai entendu mon père ou ma mère dire, tiens, qu'est-ce qu'on va bouffer ce midi? Bah, du Frühstück.
Non, pas de Frühstück.
Pardon?
Un petit Frühstück, mais pas du Frühstück.
Non.
Ah, il se met à deux contre vous, Laurent, là. Tu confonds pas avec un petit frottis, plutôt.
Écoutez, franchement, ça a peut-être pas beaucoup d'importance. N'enlevez pas la bonne réponse à Mademoiselle Diamant et à Monsieur Gazan, qui manifestement ont couché avec les Allemands, et savent que Frühstück a donné chez nous un frischti, ou du frischti. Peu importe, mais en tout cas, c'était ça la bonne réponse. Une question maintenant. Une question amusante. Tiens, pour Romain Leteux, le Monsieur Leteux habite Calvi. Où trouve-t-on un couche tout nu?
Au Cap d'Agde?
Non.
Dans une ferme, peut-être, c'est un animal?
Non.
Dans un zoo?
Non.
Un couche tout nu.
Ta pyjama sans culotte.
C'est un animal?
Ce n'est pas un animal.
Un habit, un vêtement?
Un habit non plus.
Un sac de couchage.
Est-ce que c'est une peuplade?
Et alors là, vous ne me reprendrez pas, monsieur Rollin.
Ah non, j'ai compris la leçon.
Je vais vous dire pourquoi, parce que ça vient du pays de Caux, c'est-à-dire, ça vient de chez moi.
Ah, d'accord. C'est une plante?
C'est un peu du patois, évidemment.
Est-ce que c'est lié éventuellement à un couche tout nu? À ce nom, c'est un petit peu de nudité ou quelque chose
que c'est forcément. Alors c'est vrai que quand vous aurez la réponse, mais pas tout de suite à mon avis dans 3 minutes 30 quand on aura donné 300 euros, quand vous aurez la réponse, vous comprendrez effectivement pourquoi on appelle ceci un couche tout nu.
Est-ce que ça a un lien avec le fait que peut-être on se couche dans l'herbe si on n'a
pas du tout. Non,
est-ce que c'est un lien avec de l'alcool?
Non plus.
L'agnole.
Est-ce que c'est un objet ou est-ce que c'est un être humain?
C'est un objet.
Un objet de la ferme?
Alors non, pas de la ferme spéciale.
C'est pas
une tente.
C'est-à-dire.
Bah quand on va au camping, je dors dans un couche tout nu cette nuit. Non, c'est non mais
moi
non,
je sais ce que c'est un couche tout nu.
Allez-y.
C'est une baignoire.
Non. Ah, mais non, c'est pas bête.
Voilà. Je pense que c'est dans une cuisine.
Non plus.
À parapluie.
Dans une salle de bain là.
Vous êtes très très loin pour l'instant.
C'est petit, ça tient dans une main ?
Oui, ça tient dans la main.
Ah, c'est un bonbon, c'est un bon bec.
C'est pas un bonbon.
Est-ce que c'est quelque chose qui a besoin d'autre chose pour exister ? Par exemple, comme une vis, ça ne sert à rien tout seul.
Non.
Est-ce que c'est...
Ah, attendez. Oui, on ne trouve pas un couche-tenu tout seul,
c'est
on va dire qu'il a des...
Il a des potes.
Il a des
couches habillées.
Voilà, exactement. Il a des potes qui, eux, ne sont pas des couches tout nues parce qu'il n'y a qu'un couche tout nu.
Il n'y a qu'un seul.
Ah, c'est un jeu de société?
C'est pas un jeu de cartes.
Est-ce que c'est un cochonnet ou un truc comme ça?
Un cochonnet, non.
C'est au croquet?
Au croquet, non.
C'est une pétanque, une boule.
Une boule.
Un cochonnet.
Ah, je sais ce que c'est. C'est un pion des jeux des échecs.
Non.
Au valet fou.
C'est dans le jeu de loi.
Ah, vous êtes tout prêts, vous brûlez, rapprochez, réfléchissez.
Au Mikado.
Un couche tout nu.
Ah, le puissance 4?
Ben, le premier Mikado, le premier.
Un couche. C'est quand on fait un strip poker?
Non.
Ah oui, c'est la bataille navale.
Non,
4,
plus. Non plus.
Ça se joue avec des pions?
Des pions, non, ça se joue avec un couche tout nu et d'autres
figurines.
C'est du strip poker.
Non plus.
C'est un dé,
non.
Dans le jeu de loi?
Dans le jeu de loi, non.
C'est toujours très utilisé aujourd'hui, cette
chose. Ah
oui.
Le petit chevau.
Petit chevau.
Alors, c'est où le petit cheval? Ou les petits chevaux.
Oui, le jeu des petits chevaux.
Oui, ça peut pas être le petit chevaux. Pardon, mais de temps en temps, j'ai besoin de faire un peu...
C'est un Rubik's Cube.
Non.
Ça se joue en plein air, Laurent.
Ça peut se jouer à la maison, en plein air, où vous voulez.
Laurent, est-ce que, par exemple, aux échecs, ce serait le premier pion blanc qu'on avance?
Mais ce n'est pas
ça. Qui serait tout seul?
Rien à voir avec les échecs.
Ah, c'est pas le billard?
Le billard, non.
On sait ce que c'est, t'as pas besoin de...
On va donner 300 euros dans une minute.
Les quilles?
Pardon.
Les quilles?
Ah, je suis content de cette question parce qu'en plus, quand vous saurez ce que c'est, vous direz, ah, c'est quand... ils sont malins, ces Normands, d'avoir appelé ça comme ça, quand même.
Est-ce que vous jouez à ce jeu, Laurent? Est-ce que vous jouez à ce jeu?
J'y ai joué beaucoup, tiens, j'en ferais bien, je jouerais bien, là.
Est-ce qu'on peut le faire maintenant? C'est-à-dire qu'après la réponse, vous avez la tiraille, vous avez le...
C'est un yo-yo?
Ah, bah, un yo-yo, il y en a un là-bas au bout, là, vous voyez.
Les osselets,
non.
Là, on peut jouer sans le matos.
La marelle?
Il faut le matos.
La marelle?
Il faut évidemment un coup.
Ah, j'ai trouvé!
Allez,
je suis un génie. Bah, il couche pas tout du nom. Non, c'est le bowling.
Oui.
C'est le jeu du bowling.
Alors?
Donc c'est la boule pour aller. Non. Ah, c'est pas ça. Vous avez dit à Florian que c'était pas ça. C'est pas les chaussures du bowling.
Le canif.
C'est marrant parce que plus tu dis que t'es un génie, moins tu trouves.
Ah, la marelle!
Oh, oui, bien sûr, j'ai joué à la marelle souvent.
Ah, j'ai trois soleils.
J'ai une gueule à jouer à la marelle.
J'adorais ça, moi, la marelle.
Même après Victor Pecci, j'ai pas joué à la marelle.
Est-ce que c'est le canif qu'on faisait qu'on plantait dans le sable?
C'est un jokari.
On est très loin.
Le bras de fer chinois, le bras de fer.
On est très très loin. 300 euros qui s'en vont. Est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle? C'est pourtant très facile.
Et toujours pas.
Parce que tout le monde connaît le couche tout nu. Hein. Eh bien, le couche tout nu.
C'est Colin Maillard?
Non, le couche tout nu, c'est le double blanc au jeu de domino.
Je savais pas que ça existait, un double blanc.
Ben si,
au
domino, vous avez le double 6 et le double blanc.
Ah, bien sûr.
Et le double blanc, c'est le couche tout nu, parce qu'il n'est pas habillé comme les autres, vous voyez.
C'est vicieux.
Le pion préféré de Zemmour.
Vous m'avez tout dit, sauf les dominos.
C'est vrai.
Et c'est vrai que le couche tout nu, c'est le double blanc. Vous avez joué au domino, déjà?
Ouais, mais j'ai pas souvenir d'avoir appelé ça un couche tout nu, moi.
Ah bah non, ça...
C'est que dans le pays de Caux.
Ah, d'accord, ok.
Et vous avez le double 6 qui vaut tout, évidemment, mais il vaut mieux terminer avec le double blanc, le couche tout nu, qu'avec le double 6, évidemment.
En plus, c'est d'autant plus étonnant qu'on les appelait couche tout nu qu'on ne les appelle pas, les dominos. Moi, quand je joue au domino,
je les siffle.
Bah si, vous dites, pardon, monsieur Roland, vous contredire, mais vous dites bien, j'ai un double 6, j'ai un double blanc, j'ai ceci, j'ai cela.
Non, on parle pas au domino.
Non,
on parle.
Professeur Roland, il compte ses mots.
Non, mais c'est parce que vous êtes pas sociable, c'est tout, mais sinon les gens, ils parlent.
Sinon les gens, quand ils parlent,
les gens, quand ils jouent, ils se parlent, c'est juste que vous êtes pas gentil.
On joue pour gagner, nous, au domino.
Bah non, on dit, c'est la finale, vous voyez, il reste. Au bout du jeu, vous avez un blanc, à l'autre bout, vous avez un blanc, et là, hop, tu sors ton couche tout nu.
Et c'est réglé.
Est-ce qu'il faut être intelligent pour jouer au domino? Parce que j'ai pas de souvenir d'avoir joué au domino. Ou c'est de la chance? C'est uniquement avoir une bonne main.
Bah,
c'est
pas un bon tirage.
On peut compter, évidemment, la chance compte comme n'importe quel jeu de hasard, bien sûr, comme les cartes. La chance compte. Ah. Mais évidemment, vous avez encore plus de chance si vous commencez à compter quels sont les dominos qui sont sortis et ceux qui restent. C'est comme pour les cartes, n'est-ce pas, Caroline?
Alors, un très très bon joueur, pardon, il a 80% de technique et 20% de chance.
Oui.
Et au domino, je savais pas qu'on pouvait compter les dominos sortis.
Si, bien sûr.
Ah bah si, bien sûr.
J'ai joué beaucoup trop jeune. Moi, de toute façon, ça, faut savoir qu'à 14 ans, je suis passé directement au casino.
Vous savez combien il y a de numéros par, enfin, combien il y a de 6, combien il y a de 5, combien il y a de 4, combien il y a de 3, combien il y a de 2.
Mais c'est dur de se rappeler.
Ah, bah oui, mais enfin, il suffit de savoir combien il y a de 2 qui sont sortis pour savoir qu'il n'y a plus de 2 ou, que vous avez une chance.
Oui, oui.
Si, puisque vous avez le choix, admettons à un moment donné, vous avez le choix à mettre le blanc au bout ou le 2 au bout. Si vous savez que tous les 2 sont sortis ou qu'il ne reste plus qu'un 2, vous n'allez pas mettre un 2, vous allez mettre plutôt le blanc.
Plus du tout des règles.
Bien sûr, c'est pas seulement la chance, c'est du génie, les dominos.
Bien sûr. Les grosses têtes de nuit, 3h, 4h30 sur RTL. Le livre du jour.
Le livre du jour s'appelle « On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute ». Autant vous dire, ça n'est pas la SPA hein, qui a publié ce livre. C'est Benoît Toccacelli chez Buchet-Chastel. On l'aura au téléphone dans un instant, l'auteur. C'est un livre, comment vous dire, un livre où il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de péripéties. C'est un homme qui quitte sa famille, qui décide de fuir la France pour l'Espagne en voiture, sur l'autoroute, pas avec sa voiture, en plus avec une voiture volée, parce qu'il a pas envie justement qu'on retrouve sa trace. Mais alors là, il va lui arriver sur toutes les aires d'autoroute route où il passe beaucoup de mésaventures et vous l'aurez compris, parmi lesquelles un chien qui se retrouve à l'arrière de sa voiture, un chien dont il ne va pas se débarrasser jusqu'à la fin du roman, d'où le titre. On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute. À un moment donné, on parlera plus précisément de ce roman dans un instant, à un moment donné en tout cas, le conducteur, ce fuyard, cet homme à qui il arrive tous les malheurs possibles, qui s'appelle Jérôme, allume la radio pour s'occuper l'esprit et il entend les premières notes de la bande originale d'un film. Tiens, je vais vous faire écouter cette bande originale de film. De quel film s'agit-il ?
Whiplash.
Comment vous dites ?
Whiplash.
Non, mais on n'est pas loin.
C'est le film de Damien Chazelle.
Non, c'est Recherche appartement ou maison, ça.
Non plus. Il est écrit dans le livre Les premières notes de Diamond, c'est le nom de la musique, bande originale du film, lui rappelle ce film et son improbable enchaînement de rebondissements.
Ah, c'est... comment ça s'appelle ?
Et à travers cette musique répétitive, écoutez bien cette...
Snatch.
Bravo, Snatch. Ah. Bonne réponse de Monsieur Haas. Écoutez comme c'est répétitif cette musique de Snatch. C'est un film de Guy Ritchie avec Jason Statham et aussi Brad Pitt,
ouais,
celui-là
Brad Pitt,
d'ailleurs.
Chapeau, ouais.
Tu braques ou tu raques Snatch. Et c'est vrai que c'est un film où il se passe des tas de choses improbables, un peu comme dans votre livre, Benoît Toccacelli. Et voilà pourquoi vous l'avez choisi comme musique sur la radio. C'est bien ça, bonjour.
Bonjour. Oui, c'est en effet, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. C'est pas arrivé par hasard. C'est un des films qui est dans mes influences. Voilà. Après, il y a beaucoup de livres aussi qu'on cherchait derrière. J'ai plus allé chercher mes influences dans les livres, mais c'est plus difficile de les entendre sur la radio.
Ah oui. Alors, je vais pas raconter la fin parce que, évidemment, on se demande qu'est-ce qu'il fuit et pourquoi il fuit cet homme sur l'autoroute avec cette voiture volée, avec finalement un chien à l'arrière qu'il récupère au passage, puis une petite fille, puis un grand-père. Je vous passe les autres personnages. C'est quasiment un bouquin sur le covoiturage que vous nous avez écrit, Benoît Toccacelli.
Oui, c'est ça, c'est une invitation à covoiturer, à pas faire les trajets sur l'autoroute tout seul.
Alors, c'est vrai qu'on en arrive, page 105 à ce que vous écriviez vous-même, hein, je n'invente rien. Cela commençait à faire beaucoup de péripéties pour une seule nuit. Quand on lit votre livre, on n'est pas loin de penser la même chose, je dois reconnaître. Mais il faut accepter que ce soit totalement, c'est pas réaliste, c'est totalement rocambolesque, on est d'accord.
Mais c'est tiré d'une histoire vraie.
Comment ça?
Ah, tout aurait pu arriver.
Ah oui, c'est ça.
Ah, oui.
Vous avez fui vous-même, votre femme et vos enfants avec deux mallettes?
Non, pas encore. Jusque-là, ma vie de couple se passe relativement bien.
Oh, ils ont pas encore lu le livre, vous mette deux mallettes pleines.
Non, c'est pas hein, ce qu'il y a dans les mallettes. Notre émission est connue pour le fameux jeu « Quel est le contenu de la valise ?» Là, dans votre roman, il y a une autre question qu'on se pose tout du long, c'est « Quel est le contenu des deux mallettes ?» Vous êtes d'accord?
Oui, c'est ça, bah, c'est fait exprès, hein, bien sûr, pour tenir le lecteur au bout jusqu'à la fin.
Et voilà, et on aura la réponse à la fin. Jérôme et cette jeune fille, elle est adolescente, quel âge elle a exactement d'ailleurs?
Elle a 15-16 ans.
15-16 ans, elle s'appelle Juliette, elle dit « Moi c'est Juliette, je viens d'avoir 15 piges ». Alors il lui dit « Tu détestes tellement tes parents que tu préfères être kidnappée », parce qu'il faut savoir qu'ils volent la voiture de ses parents. Le père était aux chiottes, hein, si ma mémoire est bonne, c'est bien ça,
et elle dormait juste sur la banquette arrière.
Alors voilà, il y a un chien, il y a une jeune fille, puis il va y avoir le grand-père. Je vous rassure, je suis pas en train de raconter tout le livre, ça c'est que le début. Il va y avoir le grand-père dans le coffre en plus.
Ah mais faut pas dire comment il sort par contre.
Je vais pas dire
dans quel état.
Mais on peut quand même dire qu'elle le surnomme, la petite Juliette, elle le surnomme son grand-père Papicole.
Oui, c'est ça.
Papicole parce que papy picole, vous l'aurez bien compris.
Ah, voilà, j'ai pas trop compris.
Pas non plus. C'est pas un livre pour intellectuels tout du long.
Mais alors, comment ça vous est venu cette idée folle? Parce que quand même, c'est un peu foufou. Il y a longtemps que j'ai pas lu un livre pareil, je dois dire.
Mais je prenais cette autoroute assez régulièrement pour aller chez mes parents. Je la prenais la nuit et pour pas m'endormir, je prenais beaucoup de café. Et comme je prenais trop de café, j'arrivais pas à m'endormir une fois que j'arrivais. Et dans les rêves que je faisais, en arrivant, il y avait toujours des trucs un peu bizarres qui se passaient. Et la plupart des péripéties du bouquin viennent de ces rêves-là, là, des rêves de café en plein milieu de la nuit, vers 3-4 heures du mat.
Et c'est vrai d'ailleurs que ce chien, même s'il n'a pas une importance primordiale tout le long du livre, il n'empêche que c'est à cause de lui, quelque part, que vont s'enchaîner toutes les mésaventures, les péripéties du pauvre Jérôme, puisque c'est en voulant ramener le chien sur l'aire d'autoroute où il pense que le chien est monté dans la voiture, c'est en voulant ramener ce chien que d'un seul coup, pris d'un désir, ça, on peut le raconter, c'est au début aussi.
Et, bon, c'est au début, ça va.
Et ça va faire rire les grosses têtes, évidemment. C'est vrai que vous trouvez souvent, quand vous allez aux toilettes ou sur les aires d'autoroute, un numéro de téléphone écrit au marqueur sur un mur, accompagné d'un doux poème « Laura sus gratos à toute heure
». Ça existe encore,
c'est, ouais, c'est la vraie question, ça existe encore, ça?
Oui, bien sûr.
Moi, j'en ai croisé. J'ai pas appelé, j'ai pas voulu vérifier pour la crédibilité du bouquin, j'ai été tenté, mais bon, si jamais c'était vrai... Il m'arrivait les mêmes choses qu'à Jérôme, j'étais pas sûr de vouloir essayer.
Parce que lui, Jérôme, il le fait. Il fait le numéro pour cette jeune femme qui promet de faire gratuitement cette petite gâterie à toute heure.
Et alors, c'est la police qui répond?
Ah ben, on va pas tout raconter. Pour ça, il faut lire « On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute ». Mais vous serez d'accord que l'éditeur, et vous-même d'ailleurs, Benoît, avez été suffisamment malin parce que les chiens comme les chats, ça fait vendre. Hein. Généralement, vous mettez un chien ou un chat sur la couverture. Et c'est ce que vous allez faire. Vous avez mis un gentil toutou. C'est un canis. C'est ça?
Alors celui-là, celui sur la couverture, c'est un labri. Celui qui a servi d'inspiration au chien, c'était une espèce de caniche mexicain pas très réussi.
C'est bien ce qui me semblait, que la photo en plus ne correspond pas au chien du roman.
Non, mais elle fait attraper le livre, elle fait regarder, et puis c'est ça qui compte après.
Voilà, c'est ça. C'est un attrape-couillon, en fait.
C'est un peu ça, mais en fait, à la base, la première à avoir retoqué, c'était ma femme. Au début, j'avais mis un bébé. Enfin, dans mes rêves, les scènes, c'était un bébé. Et puis elle m'a dit, non, mais d'une, ça marchera pas. Les gens vont se poser trop de questions. Tu mets un chien, ça passera nickel, tu verras.
Eh ben oui, effectivement.
La preuve, voilà.
Et ça fait parler. Et puis quand même, il faut le dire, vous avez beaucoup d'imagination. Et on a, je rassure tout le monde, à la fin du livre, une explication à tout ce qui se passe. On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute. C'est signé Benoît Toccacelli. Et c'était le livre du jour, publié chez Buchet-Chastel. Merci beaucoup.
Les grosses têtes sur RTL. La rediff.
Monsieur Rioux, pendant la publicité, vient bêtement de réclamer une question de sport, alors qu'il s'est lamentablement vautré, il faut le dire, tout à l'heure, sur, vous vous rappelez du nom du joueur de tennis?
Verkerk.
Voilà, Martin Verkerk, qui a effectivement perdu en 2003.
Face à Ferrero Rocher.
Face à Ferrero Rocher, si vous voulez. Lors de la seule victoire de Carlos Ferrero à Roland Garros, et aujourd'hui, il est l'entraîneur de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, pour être précis, et dire son prénom en entier. Là, il ne s'agit pas de tennis. Ah. Il s'agit de quelqu'un qu'on a longtemps surnommé le grand fusil. Et d'ailleurs, le grand fusil aurait 100 ans aujourd'hui, vous voyez.
Bill Cody.
Puisqu'il est né le 12 juin 1925, il aurait 100 ans s'il n'était pas mort l'année dernière. À un an près, il aurait été centenaire.
Oui. C'est un cycliste.
C'est le cycliste qui fait chaque fois le tour du vélodrome et qu'on a au téléphone chaque année.
Ah non, c'est pas lui. Non,
c'est
là, on parle d'un vrai champion.
Ah, c'est monsieur Raphaël Géminiani. Oui.
Raphaël Géminiani, ouais. Bonne réponse.
Une légende absolue et une verve extraordinaire.
Et il faisait quoi?
Ah bah, il du vélo.
Ouais, c'est le principe du cycliste.
Il a accompagné Louison Bobet pendant trois Tours de France. C'était un grimpeur, hein, surtout.
Et après, il était un grand directeur sportif aussi.
Oui,
il a été directeur de Jacques Anquetil.
C'est ça. Il était vraiment.
Raphaël Géminiani. Et il aurait eu 100 ans. C'est con. Il est mort l'année dernière en 2024.
Ça, c'est bête, alors.
Il était peut-être pas en pleine forme.
Le 5 juillet 2024, il aurait pu être centenaire. Et effectivement, il était né le 12 juin 1925. Pile aujourd'hui, 100 ans. Voilà un bel hommage. Vous souvenez de lui, ouais. C'est bien. Bravo, Yoann Rioux. Ah ben voilà une date éloignée. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Il était même pas né, notre ami Az. Le 18 janvier... Vous étiez né en 1987, non, hein?
Non, il est comme ma fille de 95.
Eh bien, ce soir-là, le 18 janvier 1987, aux 20h de TF1, Bruno Mazur reçoit quelqu'un qui vient faire un démenti incroyable. Qui, Bruno Mazur, reçoit-il le 18 janvier 1987?
Moi, j'avoue, j'ai crié oui, mais j'en ai aucune.
Oui, je sais. C'est pas madame Adjani, mademoiselle Adjani.
Expliquez.
C'était pas la rumeur que peut-être qu'elle avait le sida, et donc elle a dû venir aux 20h, vous rendez compte, à la télé pour dire non, je ne l'ai pas.
Excellente réponse de Johan Rioux.
Et même, elle avait la main sur la joue pendant qu'elle a parlé. Ouais. Et du coup, les gens ont dit, mais il y a quelque chose de bizarre, elle a sa main sur la joue.
Alors qu'aujourd'hui, elle l'a encore.
Oui. Elle a la main dans la nuque. Ouais.
Elle a même rajouté une main de l'autre côté aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'elle est souvent comme ça, Dani. Ça permet d'abord de se tirer un peu la peau quand on parle, là, vous voyez.
C'est un petit truc.
Je suis pas mieux. Elle a pas besoin des mains, honnêtement.
Je suis pas mieux.
Ah, mais super, on dirait Victor Pecci.
Mais en tout cas, effectivement, elle avait été obligée. La rumeur avait pris une telle ampleur qu'elle était venue en 87, le 18 janvier, chez Bruno Mazur. Enfin, je sais pas chez Bruno Mazur, mais au journal de 20h. À l'époque, il était encore sur TF1 avant de revenir sur la 2. Bruno Mazur sur TF1 a reçu Isabelle Adjani pour dire non, je n'ai pas le sida. Ça paraît incroyable. Ouais. Une autre époque, janvier 87. Pour Daniel Meyer, monsieur Meyer habite Pompon. Vous avez des nouvelles de Chantal là-dessous, vous, en fait?
Ah, je sais pas où elle est, il faut demander.
Je la connais très bien.
Elle demande des verres.
Je peux lui demander.
J'ai l'impression que vous êtes endormie, Chantal.
Oui, non, c'est vrai.
Vous tournez beaucoup, vous êtes fatigué.
Oui, je tourne beaucoup, oui.
Ou vous n'avez rien à dire, peut-être?
En rond, non.
Vous êtes de vieux amis, ça qui est beau, quoi, franchement, c'est vrai?
Oui, on s'aime beaucoup, oui. Il m'invite même quand je parle pas.
Je dirais même, je suis prêt à payer pour qu'elle parle pas. Alors là, quand même, c'est à votre portée, chère Chantal, la question suivante.
Bah, merci, dis donc.
Et comment vous appelez?
On en vend 7 chaque minute. Rendez-vous compte. 7 chaque minute.
C'est pas énorme.
Ah, comment ça, c'est pas énorme?
Ben, ça dépend par rapport à d'autres trucs.
Ah, mais quand vous allez savoir, quand même, moi, je trouve ça beaucoup déjà. Hein. 7 par minute, c'est ce qu'on appelle un indispensable. 4 millions par an dans le monde entier. Mais de quoi ça?
Un bric-à-bic?
Non.
Un rouge à lèvres, un stylo-bic?
Non.
C'est un vêtement?
Et ça a été inventé par un monsieur qui s'appelait Étienne Valton en 1918.
Est-ce que c'est plutôt pour les femmes ou pour les hommes?
Alors, je crois que c'est plutôt pour les femmes au départ, mais c'est aussi pour les hommes. Mais je crois que c'est plutôt pour les femmes.
C'est un truc de beauté quand même, un petit...
Ah, de beauté, on n'ira pas jusque-là.
C'est un vêtement?
Des barrettes?
Un vêtement, oui.
Non, c'est quelque chose qui est hygiénique.
Des chouchous,
non.
Le slip?
Un slip?
Oh, les chouchous pour mecs, il n'y en a quand même pas des masses.
Des tangas, des strings?
Alors, attention.
Un slip, oui.
Des bandes jartelles?
Un slip.
Alors, pas n'importe quel slip.
Kangourou? Le tanga? Le string?
Non.
La culotte petit bateau?
Pardon.
La culotte petit bateau?
La culotte petit bateau! Bonne réponse de Florian Gazan.
Moi, j'ai grandi avec petit bateau, hein.
Eh oui, en 1918, Étienne Valton, le fils du fondateur de Petit Bateau, raccourcit le slip de l'époque, le sous-vêtement, pour le transformer en culotte sans jambes, parce qu'il y avait des jambes, si vous voulez, à l'époque. C'était pas encore des slips, c'était des culottes, vous voyez.
Il y a des gens qui mettent des culottes Petit Bateau.
Ah bah Caroline, Chantal, les femmes continuent à mettre des culottes.
C'est mythique,
mais j'en ai mis toute mon enfance. Maintenant, il y a des fétichistes de ça, mais bon, moi, j'ai pas assez de tissu pour.
Ah voilà. Donc toi, c'est des culottes.
Il faudrait deux draps.
Non. Donc toi, c'est des culottes paquebot maintenant.
Non. Les culottes quoi?
Ne m'appelez plus jamais France.
Ils sont cons.
Culotte petit bateau, c'est quand même un tue-l'amour, hein.
C'est parce que vous n'avez pas vu le moque à l'intérieur.
Mais au Japon, ils adorent les petites culottes blanches. Il paraît qu'ils achètent. Il y a des trafics avec ça. T'as des espèces de pervers. Ils aiment bien. Ça leur fait penser à des jeunes filles. C'est très, très, très dégueulasse.
Je suis sûr que Chantal Latsou, qui ne dit rien pour l'instant, a dans ses tiroirs des culottes petit bateau, Chantal.
Oh, c'est moi, pour l'instant, j'en porte une. C'est celle de ma fille. Elle me sert comme c'est pas permis.
Oh. Comment ça se fait, ça?
Tu as peut-être mis à... de culotte ce matin, j'ai pris une culotte de ma fille qu'elle avait laissée là quand elle avait 12 ans.
Si ça te sert beaucoup, c'est peut-être un string.
Des strings.
Il va falloir un spéléo pour le retrouver. Hein.
Et comment ça se fait que vous avez encore les culottes de vos filles chez vous?
Bah parce que j'ai des petits enfants, ça peut servir.
Ah, ah oui, d'accord.
Ah oui, vous comprenez.
Ah oui,
je comprends.
Mais est-ce qu'un string c'est pratique pour une femme ou c'est vraiment compliqué?
Ah moi je trouve que c'est très pratique.
Ah bon?
Ah je déteste ça.
Et toi Florian, toi t'as eu beaucoup de femmes dans ta vie. C'est...
Oui, tout à fait. Oui, tu fais bien de m'en parler. Oui.
Après je pense que tout le monde a.
Lui c'est pas la culotte petit bateau, c'est la croisière s'amuse.
Oui. Non mais je comprends pas le truc.
T'as déjà vu un string en vrai toi Yann?
Je crois que j'ai jamais vu un string de ma vie.
Mais c'est évident qu'on a pas vu.
Mes ex sont des culottes.
Chantal, montrez-lui.
Ouais, non mais toi, tu veux pas voir un petit bateau, c'est vachement mignon.
Bah, c'est quand même.
Les strings, c'est... tu préfères les strings?
Non, mais je sais pas. Des...
Chantal, je me suis laissé dire que vous préférez un gros nœud derrière qu'un petit nœud devant.
C'est vrai. Ouais. J'ai un skate comme ça que vous m'avez écrit. Hein.
C'est un texto de Michel. De toute façon, l'important, c'est le principal, c'est de l'enlever très vite quand même pour faire nos affaires. C'est...
Bah non, justement, le string.
Le string, tu peux le décaler. Tu peux le décaler. Ah bon, attends, je comprends pas le truc.
Ah, oui. Ah non,
tu peux pas le décaler puisque c'est une ficelle.
Non, non, mais.
Justement.
As, quand vous vous reverrez après.
Ah, moi, je préfère une vraie culotte, au moins. On...
Bah oui.
Ouais, bah oui.
Non, mais peut-être une vraie femme, déjà. C'est un début.
Ah, bah la seule ficelle qu'il a vue sur quelque chose.
Après, on l'habillera avec des sous-vêtements. Ouais. Tu vois.
Qui dans le public porte un string ici ce soir?
Non, ça ne se fait
je ne vous demanderai pas
non,
de te montrer.
Ça ne se fait pas de te poser cette question.
Ah, c'est vrai.
Non, nous, on entend entre nous, on peut se la poser. Mais pas
allez, levez la main, sinon.
Enfin, ça va pas, non.
Alors, on peut te demander... Alors, vraiment, c'est ce qu'on appelle les ficelles du métier.
Comment vous appelez, madame?
Mais enfin, Yoann Riou, vous n'avez pas le droit. Vous aurez des problèmes avec MeToo un jour, hein, Yoann Riou, hein, je vous préviens. L'autre jour, il y a eu des, y a eu des plaintes, les dames, là, sur les...
C'est le seul qui va avoir un MeToo sans baiser.
Ça serait pas de vol.
C'est le premier MeToo puceau. C'est fou, quoi.